Vous écoutez, on lit pour vous.
Le vélo, la plus grande invention au monde, un texte de Olivier Labrèche, paru le 23 octobre 2024 dans la presse. Olivier Labrèche est porte-parole de l'Association pour la mobilité active de Saint-Laurent. Voici son plaidoyer plein d'humour en faveur de la bicyclette, instrument de liberté et de santé sans égal aux yeux de l'auteur. Le 21 septembre 2024, j'ai été invité à participer à la fête du vélo de Sherbrooke en tant que bénévole. Ce bel événement festif m'a inspiré ce petit texte présentant les raisons pour lesquelles, à mon sens, le vélo est l'invention la plus absolument géniale que l'humanité ait jamais produite. Vous pourriez répondre qu'en tant que militant cycliste, je souffre d'un biais méthodologique. Si elle ne prétend pas suivre la logique rigoureuse des démonstrations de Pythagore et de Descartes, j'espère néanmoins que ce texte mettra en valeur les bénéfices de cet objet sans équivalent dans le monde. On parle souvent des changements climatiques et de la crise écologique en ce moment. Bien sûr, le vélo peut aider de ce point de vue. On pourrait faire la liste des bénéfices. Il ne brûle pas d'essence, consomme très peu de matière, et la quantité d'asphalte nécessaire pour rouler et se stationner est minime. Mais soyons honnêtes, la plupart des personnes qui se sont mises au vélo ne l'ont pas fait initialement pour sauver la planète. En réalité, un vélo, c'est d'abord un outil de liberté. Pour un enfant de 6 ans, c'est un jouet qui permet d'aller très vite, plus vite que maman. À 10 ans, il permet d'aller jouer au parc avec ses amis le soir. Pour un jeune de 14 ans, c'est un moyen de se rendre à l'école par ses propres moyens, plutôt que d'attendre l'autobus au coin d'une rue. À 16 ans, ce jeune ira chez ses amis sans demander à ses parents de le conduire et un peu plus tard se passera de taxi pour ses sorties au centre-ville. Pour un travailleur, le vélo permet de se rendre au travail sans être pris dans la circulation, tout en faisant des économies. Un gage de bonne santé. Je pourrais continuer cette liste longtemps, mais j'aimerais aborder un autre aspect. Le vélo est un gage de bonne santé. Quelle meilleure façon de commencer sa journée qu'avec une balade sur deux roues? Pas besoin d'abonnement au gym, pas besoin de lever des poids dans son sous-sol. Les abdos et les biceps vont peut-être attendre, mais la forme va être au rendez-vous si on intègre le vélo dans sa routine. On n'aura même pas à y penser, ce sera un non-sujet. Si une pomme par jour éloigne le docteur, une balade de vélo par jour lui fait prendre sa retraite. Et puis, si on compare l'efficacité des différents moyens de transport, le vélo arrive tout en haut de la liste. Comme le dit Bill Strickland, éditeur en chef de la revue Bicycling, le vélo est la machine la plus efficace jamais créée. En convertissant les calories en essence, un vélo obtient l'équivalent de 3000 miles par gallon, soit moins d'un dixième de litre par 100 km. Aucune autre machine sur Terre n'est capable d'un tel rendement, qu'on ne s'étonne pas qu'il y en ait 7,2 millions au Québec en 2020, soit plus que le nombre de voitures. Connaissez-vous beaucoup d'inventions qui sont bonnes pour la planète, donnent de la liberté aux gens, permettent de rester en forme et de faire des économies, qui permettent de se déplacer très loin, avec peu d'efforts, ne font pas de bruit et ne sont pas dangereuses pour autrui, qui rehaussent le moral, sont compactes, peuvent être réparées par soi-même, ne coûtent pas cher et peuvent durer des décennies? et qui peuvent même remplacer des tâches mécaniques comme la fabrication d'un smoothie avec d'ingénieuses adaptations. Si vous connaissez une création humaine avec plus de bénéfices, je vous invite à répondre à ce texte pour la présenter au lecteur. Pour ma part, j'affirme que le vélo est la plus grande invention au monde et j'estime en avoir apporté la preuve irréfutable. Les inventeurs de l'agriculture, de l'imprimante et du transistor peuvent aller se rhabiller. Je vous laisse donc sur ces mots à méditer lors de votre prochaine balade à vélo. C'était « Le vélo, la plus grande invention au monde », un texte de Olivier Labrèche, paru le 23 octobre 2024 dans la presse.
Y a-t-il un moyen de renforcer un système immunitaire? Un texte de Catherine Handfield, paru le 3 novembre 2024 dans la presse. Le système immunitaire est composé de cellules, de tissus et d'organes, et sa fonction est capitale. Il protège le corps contre les infections et les maladies. En ce retour de la saison froide, qui est aussi celle des virus respiratoires, il est normal de se demander s'il y a quelque chose à faire pour favoriser les défenses immunitaires de son corps. Mais d'abord, petit retour en arrière. Au plus fort de la pandémie de COVID-19, des scientifiques ont mis la population en garde contre les prétentions associées à des produits de santé naturelle comme ceux censés renforcer le système immunitaire. La pandémie a aussi mis en lumière le manque de contrôle entourant ces allégations sans fondement, scientifiquement crédibles et souvent floues. En santé publique, la situation devient problématique lorsque ces suppléments se substituent aux approches médicales validées, comme la vaccination, et confèrent un faux sentiment de sécurité aux gens. Est-ce à dire qu'il n'y a rien à faire pour rendre son système immunitaire plus efficace? S'il n'existe pas de solution miracle, on ne peut pas se tromper en maintenant de saines habitudes de vie. Lorsqu'on fait de bonnes choses pour votre corps, est-ce que cela fait de bonnes choses pour le système immunitaire? Probablement oui, résume le neurologue Jack Antle, professeur de l'Université McGill et membre associé du département de microbiologie et d'immunologie. Lorsque des gens de son entourage lui pose la question, le chercheur André Veillette leur répond ceci. Essayez d'avoir une vie la plus équilibrée possible, d'avoir une nutrition la plus équilibrée possible, de faire traiter vos maladies, si vous en avez, et de vous faire vacciner, et de porter des masques quand il faut en porter. Idéalement, on essaie aussi de ne pas fumer, et de ne pas trop boire, ajoute le Dr Veillette, directeur de l'unité de recherche en oncologie moléculaire à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Faire de l'exercice et bien dormir ne peut qu'être salutaire également. Existe-t-il des preuves scientifiques rigoureuses qui montrent qu'être sage comme des images et de bien manger ça va prévenir les infections? Je ne mettrai pas non plus ma réputation scientifique là-dessus. Ce n'est pas clair, mais c'est logique, résume André Veillette. Une bonne idée, les suppléments? Les consommateurs peuvent se demander s'ils ne devraient pas prendre des suppléments alimentaires comme de la vitamine C, de la vitamine B ou encore des minéraux comme le zinc. Dans sa fiche d'information au public, le Bureau des suppléments alimentaires des National Institutes of Health aux États-Unis conseille de puiser tous ces vitamines et minéraux effectivement important pour le système immunitaire, dans leur alimentation. Dans la plupart des cas, si vous ne souffrez pas de carence, le fait d'augmenter votre apport en vitamines et minéraux au moyen de suppléments alimentaires n'aide pas à prévenir les infections, ni à vous en remettre plus rapidement. Peut-on y lire? Pour les gens qui ont un rythme de vie normal, avec une nutrition normale, il y a très peu de preuves que ces suppléments sont importants ou nécessaires pour se protéger contre les infections ou pour stimuler le système. Dit André Veillette, selon qui il faut néanmoins respecter la décision de ceux qui en prennent. Et les traitements? Dans le monde médical, il existe des façons de stimuler le système immunitaire. Lorsqu'on se fait vacciner, par exemple, le système immunitaire reconnaît l'élément inactif ou affaibli de l'organisme contre lequel on veut se protéger, et il produit des anticorps. Dans presque tous les vaccins, ils ajoutent une substance nommée adjuvant, qui rend le système immunitaire plus actif et la réponse plus forte, explique le Dr. Jack Antel. Le renforcement du système immunitaire est aujourd'hui au cœur des nouveaux traitements contre le cancer. Alors que la chimiothérapie et la radiothérapie s'attaquent aux cellules du cancer, l'immunothérapie mobilise le système immunitaire pour qu'il puisse reconnaître et détruire les cellules cancéreuses. Par ailleurs, certains patients peuvent recevoir des anticorps pour leur permettre de combattre les virus et bactéries qu'ils vont rencontrer, ajoute le Dr. Veillette. C'est le cas de ceux qui souffrent d'immunodéficience congénitale. Des traitements peuvent aussi être administrés pour contrecarrer la faiblesse du système immunitaire induite par la chimiothérapie, ajoute-t-il. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on ferait chez les gens en bonne santé, parce qu'il peut y avoir des effets secondaires, souligne le chercheur. Le neurologue Jack Antel souligne une chose importante. Un système immunitaire trop fort peut aussi entraîner des conséquences négatives. Dans les maladies auto-immunes, par exemple, le système immunitaire, dysfonctionnel, s'attaque à des composantes de l'organisme. Je travaille dans le domaine de la sclérose en plaques, et nous croyons que, dans cette maladie, le système immunitaire est trop fort et qu'il est dirigé contre une cible dans le cerveau, explique-t-il. Pour contrôler la maladie, les médecins utilisent des médicaments qui diminuent la réponse immunitaire. C'était « Y a-t-il un moyen de renforcer un système immunitaire? » Un texte de Catherine Hanfield, paru le 3 novembre 2024 dans La Presse.
Les demandes anticipées d'aide médicale à mourir sont désormais acceptées au Québec. Un texte de La Presse canadienne paru le 30 octobre 2024 dans Le Devoir. Une personne atteinte d'une maladie grave et incurable menant à l'inaptitude, comme l'Alzheimer, peut désormais faire une demande anticipée d'aide médicale à mourir au Québec, si tel est son souhait. Les dispositions législatives adoptées en juin 2023 visant les demandes anticipées d'aide médicale à mourir sont entrées en vigueur mercredi le 30 octobre 2024. Elles prévoient qu'une personne qui a reçu un diagnostic de maladie grave et incurable peut faire une demande d'aide médicale à mourir alors qu'elle est encore apte à consentir aux soins, en vue de la recevoir une fois qu'elle sera devenue inapte. Pour présenter une telle demande, la personne doit être apte à consentir aux soins, c'est-à-dire être en mesure de bien comprendre sa situation médicale et les informations données, de décider ce qui lui convient le mieux et de bien communiquer sa volonté. Cette demande doit être faite de manière libre, sans pression extérieure. Elle doit aussi être faite de manière éclairée, c'est-à-dire que la personne qui la formule sait, entre autres, ce que ce soin implique et qu'il existe d'autres soins possibles, explique le gouvernement du Québec sur son site Web. Les demandes anticipées doivent respecter plusieurs critères qui étaient déjà en vigueur pour les demandes traditionnelles. La personne doit, entre autres, être majeure et être aux prises avec un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Elle doit aussi éprouver des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables. Une personne qui souhaite présenter une demande doit en parler à un professionnel de la santé. Les médecins et les infirmières praticiennes spécialisées sont les seuls professionnels autorisés à prodiguer ce soin au Québec. Pour les demandes anticipées, il n'y a pas de temps déterminé entre la demande et l'administration de l'aide médicale à mourir. Il peut s'écouler des mois, voire des années, entre la demande et le moment de recevoir le soin. Sans attendre le fédéral. Québec est allé de l'avant avec l'autorisation des demandes anticipées d'aide médicale à mourir sans attendre qu'Ottawa modifie son code criminel pour les permettre, ce qu'il n'a pas encore fait. Le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, a confirmé que le gouvernement Trudeau ne lancera aucune action judiciaire pour contester la loi québécoise qui autorise les demandes anticipées. Il a rappelé qu'en vertu du code criminel tel qu'il est rédigé actuellement, administrer l'aide médicale à mourir de manière anticipée n'est pas légal, mais il a convenu que l'administration de la justice relève des provinces. Les procureurs du Québec ont justement eu pour directive de ne pas déposer de poursuite criminelle en lien avec un décès survenu dans le contexte de l'aide médicale à mourir si la preuve démontre que cela a été prodigué dans le respect de volontés exprimées de façon libre et éclairée. Le Collège des médecins, qui est favorable aux demandes anticipées pour les personnes avec un diagnostic de maladie neurodégénérative qui ne pourraient consentir plus tard à l'aide médicale à mourir, a déploré qu'Ottawa traîne à modifier le code criminel. C'était « Les demandes anticipées d'aide médicale à mourir sont désormais acceptées au Québec », un texte de la presse canadienne paru le 30 octobre 2024 dans Le Devoir.
Des noms de lacs et de rues de plus en plus poétiques. Un texte d'Isabelle Porter paru le 18 mars 2024 dans Le Devoir. Il y a désormais un lac aux étoiles qui craque sur la Côte-Nord et une place de la rivière sans bruit à Québec. Fini les noms d'arbres et de figures saintes, les villes et le gouvernement rivalisent désormais d'imagination pour poétiser le territoire. Et la bonne nouvelle, c'est que les citoyens peuvent soumettre leurs idées. Au Québec, il y a vraiment de beaux toponymes, des toponymes créatifs, lance la porte-parole de la Commission de toponymie du Québec, Chantal Bouchard. Le 14 février 2024, l'organisme vieux de plus d'un siècle dévoilait ses « coups de cœur » des plus beaux toponymes créés en cours d'année. Le prix du public est allé à la Venise des Castors, une section du lac Picauba dans le parc national de la Jacques-Cartier. Apparemment, le zèle déployé par les castors en ce lieu a donné lieu à un barrage si imposant et complexe qu'on a cru bon de l'associer au canot de Venise. Le jury de la commission, lui, a choisi le troisième rang du vieux verbal à Saint-Calixte dans Lanaudière. Contrairement à ce qu'on pourrait soupçonner, la formule n'évoque pas un aîné qui a beaucoup de conversations, mais le nom que les locaux donnaient à un ancien chemin de colonisation. Le terme « verbal » découle de l'ancienne expression « verbaliser un chemin », lorsque le conseil municipal édictait comment il serait établi et entretenu. Créé en 2013, le concours s'est enrichi d'un prix du public, il y a 5 ans. Cette année, plus de 7700 personnes y ont participé, indique Mme Bouchard. L'an dernier, c'est la Côte-Nord qui était à l'honneur, avec son lac aux étoiles qui craque, près de Baie-Comeau. En plus de mettre en valeur les plus jolis toponymes, la Commission souhaite ainsi donner de l'inspiration aux municipalités pour qu'elles trouvent de beaux noms de lieux, précise la porte-parole. Québec, poète inspiré. La ville de Québec fait partie des municipalités qui ne sont pas en mal d'inspiration. En 2023, elle avait figuré parmi les finalistes pour sa « Place de la rivière sans bruit ». L'année précédente, sa « Passerelle de la tortue » avait reçu le prix du public. La municipalité aurait-elle embauché des poètes sans nous le dire? Non. Ces nouveaux noms sont certes poétiques, mais ils sont d'abord enracinés dans le passé, fait remarquer Frédéric Smith, historien et conseiller en commémoration et à la mise en valeur du patrimoine à la ville. Le premier réflexe qu'on a, c'est de regarder ce que l'histoire du lieu peut nous dire. L'idée de la place de la rivière sans bruit est venue de l'ancien conseiller et chroniqueur urbain Régent Lemoine, qui siège au comité de toponymie. Elle évoque une section plus tranquille de la rivière Saint-Charles que les gens du quartier prénommaient ainsi dans le passé. Ça a vraiment été un coup de cœur pour nous aussi, souligne le conseiller, responsable du dossier au comité exécutif Claude Lavoie. J'aime beaucoup courir le long de la Saint-Charles, et c'est vrai qu'on a l'impression d'être complètement ailleurs à cet endroit. Quant à la passerelle de la tortue, une autre idée du comité, il s'agit d'un clin d'œil à la fable de Jean de La Fontaine, puisqu'elle mène au parc de la Pointe aux Lièvres. Il s'agit en outre d'un hommage au symbole de la tortue très présent dans la culture autochtone. Vous écoutez des noms de lacs et de rues de plus en plus poétiques, un texte de Isabelle Porter, paru le 18 mars 2024 dans Le Devoir. Comment ça marche? Chaque fois que la ville doit baptiser un lieu, elle mandate la commission pour en trouver un. Par ailleurs, beaucoup de gens l'ignorent, mais les citoyens peuvent soumettre des propositions sur les noms de rues et de parcs. La plupart des municipalités proposent sur le site Internet aux citoyens de leur faire des suggestions en matière de toponymes. Ainsi, lorsque la commission n'a pas d'idée précise, il lui est possible de puiser dans la banque de suggestions qu'elle a constituée depuis les années 1980. Une réserve qui compte aujourd'hui plus de 2000 noms. On est dans un bassin de gens passionnés, avance Claude Lavoie. Nous recevons une quantité phénoménale de propositions. La banque n'est d'ailleurs pas près de se vider, ajoute M. Smith, puisque seulement de 15 à 20 nouveaux toponymes font leur apparition chaque année. On n'a pas tant d'occasions de nommer de nouvelles rues ou places. Donc, notre banque grossit plus vite qu'elle se vide. Toutefois, les propositions des citoyens font rarement dans la poésie et portent surtout sur des personnages historiques et des personnalités connues. L'historien précise qu'en matière de figures historiques, les toponymes doivent répondre à certains critères. La personne doit s'être distinguée de façon particulière dans son domaine ou avoir contribué de manière importante au rayonnement de Québec. Elle doit aussi être décédée depuis au moins un an, ce qui est beaucoup moins que le délai de 5 ans exigé pour l'érection d'une plaque commémorative, par exemple. Le délai permet de laisser le temps à la poussière de retomber et au squelette de sortir des placards parfois, mentionne M. Smith. Donc, de ne pas réagir trop sur le coup de l'émotion, ce qui pourrait nous faire des erreurs. Les toponymes critiqués. Pour les points d'eau, les montagnes, les routes, les barrages et les édifices gouvernementaux, les suggestions doivent être transmises à la commission de toponymie qui se charge de tout le Québec. Cette dernière doit aussi approuver tous les nouveaux toponymes créés par les municipalités. L'an dernier, l'organisme a traité un total de 1529 noms. C'est beaucoup? Peut-être. Mais en théorie, il reste encore énormément de lieux à nommer, relève Chantal Bouchard. Au Québec, il y a 3,5 millions de plans d'eau et seulement 2% sont nommés. Mais on ne va pas aller donner des noms aux lacs s'il n'y a pas de besoin, prévient-elle. Il y a aussi ces lieux qu'on débaptise et renomme. À la Ville de Québec, la Commission reçoit de plus en plus de suggestions pour qu'on modifie l'appellation de lieux controversés. La Commission lance d'ailleurs cette année une réflexion sur ce que Frédéric Smith appelle les toponymes critiqués. C'est le cas de l'avenue Moncton, dont la présence a de nouveau été dénoncée par un groupe de citoyens il y a quelques jours. Le nom est celui d'un général ayant joué un rôle clé dans la déportation des Acadiens. Autre cas plus récent, la rue Christophe-Colomb dans la Basse-Ville. Des citoyens ont déjà demandé à la ville de retirer le nom de l'explorateur espagnol en raison du mal qu'il a fait dans le passé aux Autochtones. Il s'agit de trouver un équilibre entre la valeur de témoignage des sociétés qui nous ont précédés à travers la toponymie et le droit des citoyens aujourd'hui de vivre dans une ville dans laquelle ils se reconnaissent, résume M. Smith. Au Québec, il y a 3,5 millions de plans d'eau et seulement 2% sont nommés. Mais on ne va pas aller donner des noms aux lacs s'il n'y a pas de besoin, dit Chantal Bouchard. Tout de même, on ne croule pas sous les demandes, mais on sent une tendance s'installer, a tenu à préciser Claude Lavoie. À la Commission de toponymie du Québec, on mentionne qu'une sorte de ménage a déjà été fait dans l'inventaire toponymique. Il y a quelques années, la dizaine de toponymes qui restaient comptant le mot en « n » ont été désofficialisés, souligne Mme Bouchard. Chaque fois qu'un nom est problématique, il va être traité de façon particulière. Les responsables cherchent aussi à accroître la place de certains groupes sous-représentés dans la toponymie, comme les femmes, les communautés culturelles et les autochtones. Évidemment, comme on n'a pas beaucoup d'occasion de commémorer chaque année, c'est un rattrapage qui est très lent, reconnaît Frédéric Smith. La ville vient d'ailleurs de donner le nom de Catherine Rodde à une nouvelle rue à Sillery, dans le secteur des anciens grands domaines qui longeaient le chemin Saint-Louis. Madame Rodde était la propriétaire du domaine Cataraqui jusqu'en 1972. C'est la dernière grande châtelaine de domaine privé à Sillery. Une petite rue près de la bibliothèque Monique Corriveau à Sainte-Foy porte aussi depuis 2021 le nom de Mariana O'Gallagher, une historienne de Québec bien connue pour avoir documenté le passé irlandais dans la région. Sa famille résidait dans le coin. Il y avait un lien avec le territoire, mais aussi un hommage à une écrivaine et historienne, note l'historien. C'était des noms de lacs et de rues de plus en plus poétiques. Un texte d'Isabelle Porter paru le 18 mars 2024 dans Le Devoir.